Voilà, je mets en route l'enregistrement. Donc, Sylvain étant malade, il m'a prévenu un petit peu tard que j'allais prêcher aujourd'hui, mais quand même, je propose de ne pas faire le message qui était prévu pour ce matin, premier dimanche du mois, en fait. Donc, les premiers dimanches du mois, c'est les prédications sur le thème de l'année. Sylvain le fera dimanche prochain. Pour ma part, je continue ma série sur les textes de loi. On a eu déjà deux messages dans cette série. Le premier concernait les textes de l'Ancien Testament sur les lois sur l'esclavage. C'est vrai qu'on peut se dire que l'esclavage, aujourd'hui, ça ne nous concerne plus, c'est aboli. Mais pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez de ce qu'on avait partagé, c'est que l'esclavage, d'abord, dans des formes dites modernes, existe toujours et même de manière plus répandue que ça n'était le cas à l'époque de la traite des Noirs. Mais Jésus, conformément à son rôle de prophète, prophète c'est celui qui annonce la parole de Dieu dans sa profondeur et sa vérité, nous révèle que tous les hommes sont soumis à un esclavage bien plus grave, celui du péché. Le seul qui peut nous en libérer est Jésus-Christ, qui nous fait passer du statut d'esclave du péché à celui d'enfant des dieux. J'habite pas dans la maison de mon maître. J'habite dans la maison de mon père. Et ça change tout. Le deuxième message qu'on a eu, c'était sur les lois relatives aux aliments impurs. Là aussi, on peut se dire, oh là là, tout ça, c'est loin de nous. Quoique, j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir un sujet un peu de divergence concernant la consommation du sang. En tout cas, l'enseignement tel que je le comprends de la Bible est très clair. C'est pas ce qui rentre par la bouche qui le souille, c'est ce qui de ça et ce qui sort de sa bouche déborde de sang. C'est ça qui souille l'homme. Et pour ça, donc, Jésus nous met en garde. Et seul le sang de Jésus peut nous purifier, non pas corporellement, mais de l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet hautement plus sensible. On va lire ce texte en Exode chapitre 22. Juste deux versets extraits du livre de l'Exode. Versets 15 et 16. Exode 22, versets 15 et 16. La lecture de ce chapitre du livre de l'Exode est très curieuse parce que Dieu commence par parler des conflits liés à des propriétés d'animaux. Et puis très brutalement, on passe à, voilà, à ces deux versets qu'on va lire. Donc ça peut faire un peu fouillis, mais Dieu l'a voulu ainsi. Exode chapitre 22, versets 15 et 16. Voilà.
Peut-être qu'on commence plus haut.
Alors, non, en fait, donc dans ta version, c'est plutôt 16 et 17 alors.
D'accord, excuse-moi.
Ok. Ah ben chez moi, c'est 15 et 16. Très bien. 16 et 17. Voilà. Très bien. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Je relis ces deux versets. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et il la prendra pour épouse, pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, visiblement le père peut refuser, il paiera quand même en argent la valeur de la dot. La valeur de la dot réservée aux vierges. Amen. Le protestant évangélique, une petite note d'introduction quand même. Nous sommes des protestants évangéliques. Peut-être le mot d'évangélique peut paraître un peu prétentieux, c'est pas très modeste, mais c'est un titre que nous portons avec modestie, mais aussi avec fierté. Le protestant évangélique prend la parole de Dieu avec sérieux. Pour lui, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que cette parole que nous lisons fait autorité comme si Dieu lui-même disait cette parole-là. Aussi, ces versets que nous allons lire, j'espère qu'ils seront pour nous véritablement une parole divine, qui nous encourage, mais aussi qui peut nous secouer, nous torturer même. Peut-être même qu'elle pourrait nous culpabiliser et produire en nous une forme de tristesse. Mais cette culpabilité, cette tristesse seront à salut si elles ne nous conduisent pas à nous renfermer, ni à nous séparer de Dieu, mais à nous repentir, c'est-à-dire à réfléchir, à changer ce qu'il faut changer et à revenir à Dieu de manière conforme à sa parole. C'est une petite note d'introduction. Si tu peux bien projeter à nouveau ces deux versets. Les versets que nous avons lus sont simples. Faut-il là les commenter? Faut-il là avoir fait de la théologie? Avoir vraiment percé un mystère profond pour saisir la parole de ces deux versets? Des fois, nous négligeons les choses qui peuvent nous paraître, qui devraient être les plus simples. Et quand nous les négligeons, c'est pour une cause. C'est parce qu'en réalité, nous la refusons. Sinon, la parole en elle-même, elle est simple, elle est claire et elle est limpide. Si un homme séduit une fille vierge qui n'est point encore fiancée, si elle était fiancée, alors le texte de loi qu'il faudrait lire serait celui de l'adultère, puni de mort dans la loi de Dieu. Je veux que ce soit clair. Hein? Voilà, donc on se situe là dans quelqu'un qui séduit une fille vierge qui visiblement lui a plu et il a constaté que cette fille n'est pas engagée. Elle est vraiment célibataire et elle lui a plu. Il a réussi à la séduire et il a eu des rapports sexuels avec elle. La Bible nous dit que dans ce cas-là, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Quelle était l'intention de celui qui a séduit cette vierge? Si son intention, c'était simplement de coucher avec elle et de la jeter, alors Dieu dit non. Tu dois la prendre pour femme. Peut-être ce jeune homme avait-il de bonnes intentions. Il a séduit, il a couché avec elle, mais en fait, il voulait vraiment l'épouser. Dans ce cas-là, il a fait les choses à l'envers. Ça peut paraître bien, effectivement, c'est bien, elle me plaît, je veux l'épouser, mais j'aurais dû d'abord l'épouser avant de coucher avec elle. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à lever le doigt. On n'a pas l'habitude, mais aujourd'hui, je vous y autorise. Parce que le texte est simple. D'accord? Oui, oui, il est très simple, donc je veux pas. Je veux que ce soit clair. Il a séduit, il couche avec elle, et là, Dieu dit, ben, il va la prendre pour femme, il va payer sa dot. Sa dot, il la paie auprès de qui? Auprès du père. À notre grande surprise, le père peut refuser. Donc là, il y a quand même un risque. Si la fille me plaisait, qu'elle n'est pas engagée et que je couche avec elle, en me disant, ben, c'est fait, j'ai couché avec elle, du coup, c'est ma femme. Mais là, c'est dommage que je n'ai pas fait les choses dans le bon sens. Parce que là, il se pourrait que je sois confronté au refus du père. C'est-à-dire que le fait d'avoir couché avec cette vierge ne signifie pas forcément que la famille est obligée de te la donner pour femme. Toi, tu as l'obligation de la prendre pour femme, voyez? Il faut lire ces textes sous toutes les perspectives. Celui qui a commis la faute, il a une obligation. Du coup, il est soumis maintenant à la volonté du père. Et le père peut refuser. Quand bien même le père refusera, il saura que ce qu'il a fait, ce qu'il a fait aurait dû être en fait dans le cadre d'un mariage et il paiera le prix qu'on paye normalement quand on se marie. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ces deux petits versets paumés comme ça dans le livre de l'Exode dans l'Ancien Testament? Je veux affirmer des phrases claires Ce sont des choses dont on parle, des fois en atelier de la foi, dans les discussions. Et puis des fois, l'appui biblique est flou. C'est pour ça que ce monde corrompu nous impose sa manière de fonctionner et on semble faire des arrangements. Pour l'avoir moi-même vécu, je sais combien c'est difficile, c'est un secret pour personne. Cependant, la parole de Dieu s'impose. Elle s'impose à tous. En tout cas, à ceux qui font profession de croire en Dieu. De ces deux versets, donc, je déduis ce que j'ai commencé à dire, c'est que la relation sexuelle, du point de vue de Dieu, se fait après un préalable. Ce préalable, c'est le mariage. Il la trompe aux femmes, il paye sa dot. C'est quand les choses sont inversées que Dieu est obligé de nous donner de telles lois. La relation sexuelle hors du mariage n'implique pas forcément le mariage. Parce que l'homme est tellement mauvais que si Dieu disait, si tu couches avec une vierge, alors tu la prends pour femme, c'est sûr et certain, qu'est-ce qui allait se passer? Voilà, les gens allaient tout faire pour coucher avec la fille et pap, j'ai couché avec toi, pap, et maintenant tu es condamné à m'épouser. Voyez un peu comment l'homme souvent utilise des choses à l'envers. C'est pour ça que Dieu permet cette liberté-là. Si la vierge elle-même n'est pas assez lucide, son père, au nom de sa famille, hein, c'est pas une décision seule du père, hein, le père parle là au nom de la famille, le père peut voir clair dans cette situation. Et si ce jeune homme, qui n'est pas forcément jeune d'ailleurs, a de mauvaises intentions, il peut refuser, tout en lui donnant cette pénalité de payer en argent la valeur de sa dot. La relation sexuelle se vit donc dans un mariage préalable, et la relation sexuelle ne signifie pas automatiquement mariage, parce qu'il faut que les conditions soient requises. Je me suis demandé s'il fallait à nouveau profiter de ce message pour dire deux, trois mots du mariage. Alors là, vraiment, quand je pense qu'on a eu quatre sessions sur l'atelier de la foi, il serait vraiment très ambitieux de reprendre cet enseignement là en deux, trois, cinq minutes. Cependant, j'en dis un bref résumé pour clarifier deux, trois idées, des fois qui sont fausses. Dieu a institué le mariage. Très tôt dans la Bible, on voit que Dieu crée l'homme. Et ce n'est pas à ce moment qu'il institue le mariage. Hein. Il crée l'homme. Ensuite, il crée la femme. Là, le mariage n'est toujours pas institué. Le mariage est institué à quel moment, d'après vous?
Après le déluge de Noé.
Après le déluge de Noé. Okay. Non, l'homme, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, donc, souvent, c'est des trucs qui ne sont pas forcément très, très clairs. Et des fois, c'est vrai que les prédicateurs, on passe un peu vite sur des choses qui ne sont pas toujours claires pour nous. Non, non. L'institution du mariage, c'est bien au moment où Dieu conduit l'homme auprès de sa femme et lui dit, voilà. Et qu'est-ce que Dieu dit? L'homme quittera son père et sa mère. S'attachera. D'accord? Et ensuite, ils deviendront une seule chair. Voilà. S'attacher, d'abord. C'est ça le mariage. Hein? Il quitte son père et sa mère, il s'attache. Et dans le cadre de cet attachement mutuel, il forme une seule chair. Je veux juste préciser que faire une seule chair implique la relation charnelle, sexuelle, mais pas que. C'est une union, c'est-à-dire faire deux chairs, c'est unir tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Nos biens, notre statut, c'est tout partager, y compris la sexualité, mais pas que. Et c'est dans ce cadre-là où Dieu lui-même est comme celui qui marie Adam et Ève et qui en est le témoin. C'est ce cadre-là que Dieu demande à son peuple de reproduire et de perpétuer. Et donc, ce texte de loi est à comprendre dans ce contexte-là. C'est-à-dire que là, c'est des déviations au cadre que Dieu a institué. Le cadre normal aurait dû être le mariage, ensuite l'union sexuelle. Est-ce que c'est clair jusque-là? L'Ancien Testament nous dit, la Bible dans le Nouveau Testament, ne s'applique pas tout à fait aux chrétiens de la même manière. C'est ce qu'on avait déjà dit sur les deux premières prédications. Il y a dans l'Ancien Testament des choses qui étaient des signes et qu'on n'a plus à faire. Par exemple, les sacrifices. On ne fait plus de sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sacrifice parfait accompli par Jésus-Christ. On n'est plus soumis, par exemple, comme je l'ai dit, à des lois des animaux impurs. Pourquoi? Parce que celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ, il est purifié. Et Jésus dira à ses disciples, déjà vous êtes purs. Garde-toi pur maintenant dans le cœur. Ce n'est pas dans ton assiette qu'il faut que tu regardes. Le chrétien n'est plus soumis au jour, aux fêtes des lunes, au Shabbat. Pourquoi? Parce que Jésus nous fait entrer dans un jour nouveau, que certains appellent symboliquement le huitième jour, le jour du repos. Bon, ça, c'est des images. Mais ce qui est important, c'est que chaque jour de ma vie, je suis en communion avec mon Seigneur. Je n'ai pas à attendre ni samedi, ni dimanche, ni lundi. Je ne suis plus soumis à ce que Paul appelle ses principes élémentaires, à calculer la lune et arriver. Ah, elle n'est pas arrivée. Ah, on est samedi à minuit. Ah, non, 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 le chrétien n'est plus dans ça. Tous les jours de sa vie, il demeure là, en communion avec son Dieu. Cependant, il y a dans l'Ancien Testament des valeurs morales. Et celles-là, en fait, comme c'est le cas ici, elles s'appliquent. Elles s'appliquent aux chrétiens. Et on est surpris de voir que non seulement elles s'appliquent, mais le Nouveau Testament donne l'impression de les amplifier. Elles sont aggravées. C'est-à-dire que ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas assez. Dans le Nouveau Testament, Jésus a mis la barre encore plus haute. Tout le monde connaît le sermon sur la montagne. Ah, c'est ça. Il a été dit ceci. Moi, je vous dis cela. C'est clair ou pas jusque-là? Le Nouveau Testament, sur le principe moral, met la barre encore plus haut. Et c'est normal. Parce que nous entrons dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans la terre de Canaan comme c'était le cas à l'époque. Nous entrons dans cette Jérusalem céleste et nous sommes ici-bas comme vivants déjà avec le Seigneur. Aussi, nous allons lire, si tu veux bien l'afficher, Simon, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20. 1 Corinthiens au chapitre 6. Versets 12 à 20. Et là, on va comprendre en quoi ces textes-là qu'on a lus, pour le chrétien, c'est-à-dire ça constitue même une base. Ce n'est pas suffisant. Jésus nous rajoute une couche supplémentaire. Et c'est par la bouche de son apôtre Paul qu'il nous dit dans ces versets qu'on va lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Là, on revoit l'image de l'esclavage. Ce n'est pas parce que je suis libre que je vais me remettre sous un esclavage. Les aliments sont pour le ventre. Le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira, en effet, l'un comme les autres. C'était le raisonnement des Corinthiens. En disant, oui, mais le corps, tout ça, attends, ça... De toute façon, on meurt, ça se décompose, et puis pourquoi se prendre la tête? Mais l'apôtre Paul dit, non, 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 attention. Mais le corps, il n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le
Seigneur.
Je relis encore ce verset. Il est pour le Seigneur, et ça ne suffit pas. Le Seigneur est pour le corps. Je relis. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et en plus, même sachez que le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Tu peux continuer la projection, s'il te plaît. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'était le problème auquel Paul répond. Certains chrétiens de Corinthe se sentaient libres d'aller voir des prostituées parce qu'ils étaient justement dans la liberté évangélique. Et Paul dit, loin de là, là vous faites fausse route. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il faudrait là faire toute une prédication très riche sur ce texte. Je vais en extraire que quelques idées en lien avec mon thème. Heureusement que le pasteur n'est pas là. Sylvain qui aime bien qu'on fasse une exégèse bien pointue. Là, je vais passer à côté d'éléments qui sont importants, mais qui par choix, aujourd'hui, je préfère insister sur 2-3 points importants. Là aussi, ce texte me semble-t-il est clair. Il est vrai que certaines phrases peuvent paraître un peu compliquées, mais l'idée générale, me semble-t-il, est assez claire. Dieu ne regarde pas que notre âme. Dieu ne regarde pas que notre esprit. Nous adorons Dieu en esprit, donc on peut se dire, oh, c'est ça qui est important, le corps, de toute façon, ça pourrit, qu'est-ce qu'il en a à faire? Mais Dieu considère énormément notre corps. La preuve, c'est qu'il va prendre la peine de nous ressusciter encore. L'autre preuve, c'est qu'en fait, il nous a rachetés. Quand on dit que Jésus nous a rachetés, c'est corps, âme et esprit. Le corps aussi en lui, pardon, le corps aussi, lui appartient. Il nous a rachetés tout entier. Et l'apôtre Paul de dire, oui, mais en fait, nos corps sont les membres du Christ. C'est comme si Christ c'était tout ça, et nous sommes les membres. Vous voyez un peu? Donc le corps est à lui. Notre corps lui appartient. Le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Pourquoi est-ce que... Comment comprendre cette phrase, le Seigneur est pour le corps? On prie le Seigneur. On prie. On le loue. Jésus est assis à la droite de Dieu. Dieu trône. Dieu siège dans les cieux. Mais le Saint-Esprit aussi qui est Dieu est là, présent au milieu de nous. Donc le Saint-Esprit aussi c'est le Seigneur. Mais ce Seigneur, où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il a fait le choix d'habiter? Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai dit que ces textes mettent la barre plus haut. Il est où le Saint-Esprit? Il est où? Il se cache où? Moi je veux bien qu'on me le montre. Il est? Amen. Il est en nous. Voici ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament. Des fois, on se sent porté par une telle spiritualité. Le Saint-Esprit est en nous. Dans ce corps-là, abîmé, froissé, déchiqueté, c'est là que le Saint-Esprit a choisi d'habiter. Il n'a pas trouvé une autre meilleure demeure que le corps du croyant. Alors, comment se fait-il que si le Saint-Esprit habite dans ton corps, tu vas t'unir avec une prostituée? Parce que, vous voyez, il y a un faux raisonnement que Paul corrige. Le faux raisonnement des Corinthiens, c'était de dire que, en fait, dans la prostitution, aller voir une prostituée, en fait, c'est un simple commerce. C'est convenu depuis le départ. On fait notre petite affaire, ni vu ni connu, et on se sépare gentiment. Et donc, entre guillemets, il n'y a pas de tort, il n'y a pas de mal. Visiblement, pour l'apôtre Paul, ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'on l'a lu, qu'est-ce qu'il dit? Tu t'attaches Il a utilisé le même texte que Dieu utilise pour le mariage dans la Genèse. Pourquoi vas-tu faire une seule chair, t'unir avec une prostituée pour faire une seule chair, alors que tu es uni au Christ en un seul esprit, parce que tu es le temple toi-même de l'Esprit de Dieu. Voyez un peu l'image. Coucher avec une prostituée, selon Paul, crée bien un lien. Tu t'attaches d'une certaine manière et tu fais un. Et là, donc, il y a comme un conflit. Tu fais un en esprit avec le Seigneur et tu fais un avec la prostituée. Tout le problème est là. Il y a une contradiction. C'est pas compatible. Et si je peux me permettre de prendre un petit exemple matériel hein, qui vaut ce qu'il vaut, c'est comme si le dimanche, on s'est réunis ici à l'église, là, dans ce local, et on le nettoie, il est super bien. Et le lundi soir, ça dit demain soir, ce même local, on l'utilise comme une boîte de nuit, un endroit plein de débauches. Et pour le dimanche, tac, 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 on nettoie vite, vite fait. Et le lundi, pop, 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 c'est... voyez? C'est pas possible. Vous voyez? C'est ça l'image que Paul veut utiliser. Comment se fait-il que toi, qui es le temple du Saint-Esprit, tu t'unis aux... Non! Non! Il dit loin de là. C'est absurde. Tu es tiraillé. Ça attriste le Saint-Esprit. Ça crée des souffrances. Et c'est incompatible avec le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit qui aurait dû servir à la gloire du Saint-Esprit, à la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit dans le dernier verset ? Reviens sur le dernier verset, s'il te plaît. Voilà. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Un temple pour un Dieu, c'est dans le temple qu'on glorifie le Dieu. Là, il parlait à des Corinthiens. Là, aujourd'hui, peut-être que nous, on ne sait pas ce que c'est les temples. À l'époque, je peux vous assurer que les temples, à l'époque, il suffit d'aller dans des musées. Waouh, c'était majestueux. C'était à la gloire du Dieu. Les temples étaient les monuments les plus beaux. Si tu es donc le temple du Saint-Esprit, veille à ce que, dans ton corps, Dieu soit aussi glorifié. Dans ton corps, et dans ton esprit. 1 Corinthiens chapitre 7. Cette fois-ci, si tu peux le projeter aussi. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. En espérant que mes notes sont bonnes. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Ce type de message, pour l'avoir moi-même entendu, cette parole de Dieu est dure à entendre. Elle est dure à entendre, cette parole de Dieu, aujourd'hui, parce que le monde, dans la manière dont vit le monde, aujourd'hui, c'est à 1000 lieues. C'est tellement éloigné de ça. Et qu'on se dit, mais comment faire? Et certains veulent nuancer ça aujourd'hui. Veulent essayer de... Oui, mais bon, on vit ensemble, mais tout qu'on fait, c'est comme si on était mariés. Non! Il faut passer devant monsieur le maire en France pour être marié. Je le dis très clairement parce que, vous voyez, il y a des arrangements. Je dis, mais non, mais dans une église évangélique, nous prêchons la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole du pasteur. Ce n'est pas la parole de l'ancien. L'ancien lui-même, il lutte pour pouvoir être dans le cadre de cette parole de Dieu-là. Je suis comme vous. Vais-je nuancer cela? Vais-je l'éducorer? Pour qu'on puisse en faire des choses boiteuses. L'apôtre Paul a dû certainement le constater chez les Corinthiens. C'est pour ça qu'il a dit cette phrase que j'aimerais nous laisser aujourd'hui. Ce que je le dis dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Ce n'est pas pour vous blâmer, vous blesser, vous culpabiliser. Mais c'est pour vous porter à ce qui est bienséant. Et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. C'est la seconde, c'est ça?
C'est la version seconde.
C'est la version seconde. Ok, bon. J'ai pas tout à fait le même mot, mais c'est la même idée. Ce que le message d'aujourd'hui, Dieu nous le dit, c'est dans notre propre intérêt. C'est dans notre propre intérêt. C'est pas pour nous piéger. Non. Mais c'est pour mener une vie bien ordonnée, une vie propre, une vie cohérente, une vie saine. La parole de Dieu de foi est dure. Jésus, dans le sixième chapitre de l'évangile de Jean, disait, celui qui veut me suivre, qu'il mange ma chair et qu'il boive mon sang. Pour les Juifs, c'était scandaleux. Les gens partaient. Ah! Ses disciples disaient, mais oui, mais ce que tu dis, c'est dur. Mais si tu prêches comme ça, il n'y aura plus de disciples. Ils vont tous partir. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus se tourne vers ses disciples et il dit, mais vous aussi, vous voulez partir? Parce que j'ai dit la vérité, vous aussi, vous voulez partir, alors partez. À un moment donné, Jésus n'a pas donné l'impression de défendre sa chapelle. Et c'est justement parce que la parole de Dieu est dure qu'elle est bien la parole de Dieu. Cependant, je redis à nouveau, c'est dans notre propre intérêt. Ce n'est pas un piège, comme si Dieu voulait nous enchaîner, nous maltraiter. Non, c'est pour mener une vie bien ordonnée et qu'on soit attaché au Seigneur sans partage, sans confusion, sans mélange, sans fausses illusions. Parce qu'au jour du jugement dernier, je vais m'arrêter là, il faudra, comme on l'a étudié pendant l'atelier de la foi, la persévérance finale, nous serons comme évalués par rapport à ce qu'on a entendu. Plusieurs fois, Jésus dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Tu l'as entendu. C'est à toi maintenant, dans ta vie personnelle, de juger. C'est toi qui juges. La parole de Dieu t'est proposée. Et c'est pour ton bien. C'est à toi de trancher. C'est pas au pasteur. C'est pas à l'ancien. On va même pas faire la police. Ah, on a déjà beaucoup de travail pour nous-mêmes. Ah oui. Ah non, non. Je peux pas faire la police en tout cas. Peut-être si moi je peux pas. La parole de Dieu vous est prêchée avec vérité. C'est à vous de juger. Jésus le juge viendra. Et ce sera lui à ce moment-là de juger. Pour l'instant, c'est à nous de juger. Jugez-en vous-même. Jugeons-en nous-mêmes. Dans la prière sacerdotale, ce sera vraiment mon mot de la fin. Ça fait trois fois que je dis ça. Jésus, priant pour ses disciples, dit « Sanctifie-les par la vérité. » Ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui, entrant dans l'oreille, prenant racine dans le cœur, produisant un changement qui sanctifie par l'œuvre du Saint-Esprit. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen.